Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au programme en français sur SBS Audio de ce mardi 20 janvier. Au sommaire, nous irons au Parlement où le gouvernement a réitéré son appel à l'unité nationale après l'attentat antisémite de Bondi Beach. Nous ferons également un point sur la rentrée culturelle 2026 à Canberra avec la programmation de l'Alliance française de Canberra. Enfin, nous recevrons l'un des plus grands aventuriers de notre époque, Mike Hone, à marge du Dakar 2026. Pour vous accompagner cet après-midi, vous êtes en compagnie de Bertrand Tungandamé. Mais sans plus tarder, le journal. Dans cette édition en France, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé le recours au 49-3 pour faire passer le budget 2026. Des troupes danoises arrivent au Groenland au moment où Donald Trump réaffirme son intention de s'emparer du territoire. Et les Australiens sauront aujourd'hui si leur Parlement fédéral est favorable ou défavorable à un renforcement des lois sur les discours haineux et à un contrôle plus strict des armes à feu. En France, fin du suspense, à l'issue d'un conseil des ministres décisif hier, le Premier ministre Sébastien Lecornu a finalement opté pour le retour de l'article 49.3, donc un passage en force pour faire adopter le budget 2026. Cette décision marque un revirement par rapport à sa politique qu'il justifie par l'urgence d'agir.
Je le fais avec un regret déjà parce que j'ai conscience que je suis obligé de revenir sur ma parole, mais en même temps pour tenir parole il faudrait que je m'entête. On finirait par dire que je suis têtu et je ne veux surtout pas avoir l'ego mal placé et être source de désordre. Les choses se sont convenablement passées jusqu'à Noël, elles se sont largement gâtées depuis Noël. Des alignements profonds entre le Sénat et l'Assemblée nationale, des tentatives très claires de sabotage, notamment de la part de la France insoumise et du Rassemblement national.
Ainsi, le Rassemblement national et la France insoumise ont aussitôt annoncé le dépôt d'une motion de censure. Si le Parti socialiste semble prêt à éviter la censure au nom des compromis obtenus, le 49-3 laisse tout de même un goût amer. Écoutons Romain Eskenazi, porte-parole du PS à l'Assemblée.
Nous aurions aimé pouvoir nous en passer. Le 49-3 est une arme entre les mains du Premier ministre pour doter la France d'un budget quand il n'a pas de majorité. On plaidait pour le compromis jusqu'au bout, jusqu'au vote. Le Premier ministre nous a expliqué qu'il n'arrivait pas, dans la dernière ligne droite, à faire voter ce budget sans 49-3. Il y aurait donc un 49-3, mais qui intégrera au budget l'ensemble des mesures de progrès social et écologique que nous avons obtenues.
Pour Marine Tondelier, la patronne des écologistes, le constat est sans appel. Je cite, c'est la naïveté des socialistes, la duperie permanente du camp macroniste. Je ne vois pas pourquoi les écologistes qui avaient voté la dernière motion de censure voteraient moins celle d'aujourd'hui. Fin de citation. Même au sein du camp présidentiel, la vigilance reste de mise, notamment sur la pression fiscale, comme le rappelle la députée d'Ensemble pour la République, Prisca Thévenot.
On verra effectivement la copie telle que proposée dans le cadre de ce 49-3. Vous connaissez ma ligne politique et celle de ma famille politique. Nous ne sommes pas pour alourdir notre pays, que ce soit les ménages ou les entreprises d'impôts.
Le texte définitif devrait être promulgué à la mi-février, sous réserve que les motions de censure déposées par le RN et LFI ne fassent pas chuter le gouvernement. Hier, des troupes danoises ont atterri au Groenland à 7h, hier soir, soit 7h, heure de Sydney, pour un exercice militaire, tandis que le président américain poursuit ses efforts pour annexer ce territoire danois. La campagne de Donald Trump menace l'OTAN, alliance dont les États-Unis et les pays européens sont membres. L'exercice Resilience Arctique fait suite à une rencontre entre le gouvernement danois et la ministre groenlandaise des Affaires étrangères, Viviane Motzfeldt, qui s'est adressée aux médias à Bruxelles.
The most important thing about the meeting was that Trolls and I achieved some important things with regard to security in the Arctic. How many people can best provide for the Arctic in terms of security? It's important to know how to work with security there. This is why we are now carrying out various exercises.
On souligne qu'un avion du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, NORAD, arrivera prochainement au Groenland pour des activités que l'organisation militaire conjointe canado-américaine qualifie de planifiées de longue date. Les pays européens se préparent à se réunir ce jeudi sur la question et les pays comme la France se sont engagés à défendre la souveraineté du Groenland si nécessaire. Le gouvernement australien a déposé au Parlement son projet de loi de rachat d'armes à feu qui vise à réduire de plus de 4 millions le nombre d'armes enregistrées dans le pays si le texte est adopté cet après-midi. Le ministre de l'Intérieur, Tony Burke, a déclaré que cette loi instaurerait des contrôles douaniers plus stricts aux frontières et renforcerait les vérifications des antécédents pour l'obtention des permis de port d'armes grâce à un nouveau cadre national. Cette loi permettra également un meilleur partage d'informations entre les services de renseignement et de sécurité, ainsi que la création d'un registre national des armes à feu.
This means our intelligence agencies will get the best information they need, and the states and territories, when deciding if someone is a fit and proper person to hold a license, will have the best possible process before a license is issued.
La coalition fédérale a annoncé qu'elle ne soutiendrait pas ce projet de loi car il pénaliserait de manière disproportionnée les agriculteurs et les tireurs sportifs. En Espagne, c'est l'une des catastrophes ferroviaires les plus meurtrières de ces dernières années qu'on signale, donc une terrible collision entre deux trains à grande vitesse qui a eu lieu en Andalousie dans la soirée du dimanche 18 janvier, engendrant un bilan dramatique d'au moins 40 morts et plus de 120 blessés. Lors d'une brève conférence de presse depuis Adamuz, le premier ministre Pedro Sánchez a annoncé décréter 3 jours de deuil national et a promis une transparence et une clarté absolue. Entre-temps, le ministre des Transports espagnol, Oscar Puente, évoquait un accident extrêmement étrange qui suscite beaucoup de questions. Élément de réponse, Arim Lipold pour RFI.
Selon le président de la compagnie ferroviaire espagnole Renfe, il faudra attendre plusieurs jours avant de connaître les causes exactes de l'accident. Pour l'instant, on sait seulement que 20 secondes se sont écoulées entre le déraillement du train Irio en direction de Madrid et le moment où l'autre train qui se rendait à Huelva l'a percuté. Le patron de la Renfe écarte à ce stade la piste de l'erreur humaine, évoque plutôt une possible défaillance du train ou de l'infrastructure. Le train qui a déraillé avait été révisé il y a seulement 4 jours et quant à la ligne où l'accident s'est produit, elle avait elle aussi été modernisée récemment selon le ministre des Transports, Oscar Puente.
La voie a été entièrement rénovée. 700 millions d'euros ont été investis précisément sur ce tronçon. Les travaux de remplacement, de modification et de déviation ont été achevés en mai de l'année dernière. L'accident est donc très étrange. Il s'est produit sur une ligne droite.
Sur place, l'identification des victimes a commencé. Cette catastrophe a provoqué une vive émotion en Espagne. Le Premier ministre Pedro Sánchez a annulé tous ses rendez-vous ce lundi pour se rendre sur les lieux dans la journée.
En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a averti que la Russie se préparait à lancer une frappe massive contre son pays dans les prochains jours. Il a exhorté ses concitoyens à rester vigilants et à prêter une attention particulière aux alertes aériennes. M. Zelensky a indiqué que l'Ukraine mettait en place une nouvelle stratégie pour son armée de l'air, une stratégie axée sur la défense à courte portée grâce à des drones intercepteurs et d'autres moyens.
This system will be transformed. I approve the appointment of a new deputy commander of the Air Force, Pavlo Yelizarov. In the army, he is known for Lazar, a special unit that operates and operates effectively. Together with Ukraine's Minister of Defense and the military command, a new organization for the entire component of this particular type of air defense must and will be developed.
Et ce mardi 20 janvier marque le premier anniversaire de l'investiture de Donald Trump pour son second mandat à la présidence des États-Unis. Cette première année a été jalonnée de décisions controversées, notamment l'imposition des tarifs douaniers globaux, la suspension de l'aide étrangère et le retrait d'alliances internationales comme l'Organisation mondiale de la santé, sans oublier des coupes sombres dans les services publics américains. Ce jalon intervient dans un climat de forte tension marqué par des manifestations contre les raid de l'immigration. Ces protestations font suite au décès le 3 janvier dernier de Renee Good, une jeune mère de famille tuée par un agent de l'ICE, la police migratoire. Le Pentagone a ordonné la mise en alerte d'environ 1500 soldats en vue d'un éventuel déploiement dans le Minnesota. Ces troubles surviennent alors que la population commémore le 40e anniversaire de la mort du célèbre militant pour l'inclusion raciale, le docteur Martin Luther King. Et retour en Australie où un surfeur a été mordu par un requin sur la côte centrale nord de la Nouvelle-Galles du Sud. Il s'agit de la 4e attaque de requin confirmée sur les littorales de l'État ces dernières 48 heures. L'homme de 39 ans surfait à Pointe Ploma près de Crescent Head mardi matin. Alors que le requin a transpercé sa planche. Le service de santé local de la côte centrale nord indique que l'homme a été transporté à l'hôpital pour des coupures et des éraflures mineures à une jambe et qu'il a depuis quitté l'établissement. Cet incident fait suite à un autre survenu lundi à 18h, au cours duquel un homme de 27 ans a été grièvement blessé après avoir été mordu par un requin à North Stain Beach à Manly, sur les plages nord de Sydney. Les zones de baignade des plages nord sont fermées aux surfeurs et aux nageurs pour les prochaines 48 heures suite à cette série d'attaques de requins. Le directeur général du Surf Life Saving New South Wales, Steve Pearce, explique que la pluie rend les conditions plus dangereuses, d'autant plus que la présence de requins est avérée.
The water is unsafe at the moment because of the turbidity and just the murkiness of the water. Do not enter the water for swimming or surfing for the next 48 hours. This is unprecedented to have this amount of shark activity incidents in the 24 hours, and this is just one of the initiatives that's been put in place to try and protect everyone's safety in the immediate period.
À présent, des prévisions météo de ce jeudi 20 janvier, Perth canicule et 39 degrés, Adélaïde des nuages qui se dissipent et un maximum de 31 degrés, Melbourne quelques passages nuageux et un maximum de 28 degrés, Hobart temps globalement ensoleillé 25 degrés, Canberra ciel partiellement nuageux 27 degrés, Wollongong une ou deux averses au programme avec un maximum de 23 degrés et à Sydney un ciel menaçant avec quelques averses et 26 degrés. Newcastle risque d'averses avec un maximum de 24 degrés. Brisbane, une ou deux ondées possibles avec un maximum de 29 degrés. Cairns, quelques averses prévues et 32 degrés, tandis que Darwin, on prévoit des pluies et orages avec un maximum de 31 degrés. Fin de cette édition, on retrouve Jean-Noël Ducasse pour le magazine des sports.
Le journal des sports de ce mardi avec tout d'abord le tennis. Novak Djokovic est entré dans l'histoire hier en remportant sa 100e victoire à l'Open d'Australie alors qu'il vise un 25e titre du Grand Chelem. Il a battu Pedro Martinez, l'Espagnol, en deux manches en seulement 2 heures. Parallèlement, l'Australien Alexei Popirin a connu une cruelle désillusion en étant éliminé dès le premier tour par le Français Alexandre Muller. La numéro 2 mondiale chez les femmes, Iga Świątek, a battu la chinoise Yu Yuan en deux manches. La star polonaise s'est montrée introspective après le match, reconnaissant qu'elle avait encore une marge de progression. Et puis, le Suisse Stan Wawrinka, âgé de 40 ans, a gagné hier. Il avait reçu une wildcard. Babacar Diarra pour RFI.
Invité par les organisateurs, je disais du passé, il a 40 ans et il a dominé un compatriote de Djokovic, Laszlo Djere, 4 sets qui lui ont procuré beaucoup de plaisir.
C'est incroyable, l'atmosphère sur le court et dans les gradins était dingue, ça m'a beaucoup aidé. J'ai 40 ans et vous ne savez jamais vraiment comment vous allez réagir dans de longs matchs comme ça. Il ne faut pas trop se projeter, juste jouer sans se poser trop de questions. Bien sûr, j'étais plus fort physiquement et tennistiquement il y a 10 ans, c'est normal, je vieillis, mais c'est ça que j'aime, voir que je suis toujours là, toujours capable de gagner des matchs de Grand Chelem.
And I'm happy that I had the chance to win a match in slams here.
Stan Wawrinka. Les derniers matchs du premier tour verront l'entrée en lice de l'Italien Yannick Sinner contre le Français Hugo Gaston et peut-être la dernière à l'Open d'Australie de Gaël Monfils s'il s'incline contre l'Australien Dane Sweeney.
On passe au foot avec la finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Et comme vous le savez, le Sénégal a battu le Maroc 1-0. Extrait de Radio Foot International sur RFI avec Hugo Moissonnier et l'équipe des sports.
Ouais, ça y est, on fait Kalidou Koulibaly là, qui est en grande conversation avec Gianni Infantino, hein, qui est venu en ami, Hugo, hein, Gianni Infantino, le président de la FIFA, avec Patrice Motsepe à ses côtés. Kalidou Koulibaly, qui est le capitaine de cette sélection, mais qui n'a pas disputé cette finale. Faut-il le rappeler, on l'a oublié, hein, mais c'est vrai que Kalidou Koulibaly a manqué la finale 2019, il a manqué la finale 2022, et bien il l'a manqué aussi parce qu'il était suspendu et blessé. Mais eh bien le défenseur, le Vosgien, va se saisir de cette CAN pour eh bien profiter avec tous ses coéquipiers de ce deuxième sacre. Bah, c'est pas mal quand même, Joe, en 4 ans. En 4 ans d'aller chercher deux cannes, à chaque fois évidemment au forceps, après celle au tir au but contre l'Égypte, et là eh bien celle obtenue dans ce scénario surréaliste après prolongation 1-0 face au Maroc à Rabat. Et eh bien voilà, Patrice Motsepe qui donne le trophée à Kalidou Koulibaly, qui va pouvoir se rapprocher de ses coéquipiers. Kalidou Koulibaly qui réclame à ses partenaires de se rapprocher. Et bien avec Ganagay autour de lui, Kalidou Koulibaly, donc Ganagay aussi, ah ouais, Sadio Mané, ils vont sans doute brandir ce trophée tous les trois. Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Ganagay, voilà les trois tauliers de cette formation. Alors que les Sénégalais
fin du match pour que ce soit lui qui lève le
et Sadio Mané, voilà, qui brandit la coupe. Sadio Mané, meilleur joueur du tournoi, et qui eh bien félicite, en tout cas qui célèbre avec tous les Sénégalais cette deuxième CAN. Les Lions de la Teranga qui sont champions d'Afrique, donc 4 ans après 2022. Hugo, belle scène de liesse, et comme le disait Joe, eh bien joli moment de communion, puisque Kalidou Koulibaly, le capitaine, a donné cette possibilité à Sadio Mané de brandir le trophée.
Et puis les débordements vus à Rabat laisseront un goût amer à beaucoup. Le président de la FIFA n'est pas content, comme nous l'explique Sylvie Berruet pour RFI.
Gianni Infantino qui condamne des scènes inacceptables lors de la finale, mettant en cause certains joueurs et une partie du staff sénégalais qui ont quitté le terrain sur ordre du sélectionneur Pape Thiaw. Plusieurs minutes en plein match, il appelle les instances disciplinaires compétentes de la CAF à prendre des sanctions. Ce dont nous avons été témoins doit être condamné et ne jamais se reproduire, dit Gianni Infantino. Des propos sévères que comprend Joseph-Antoine Bell, le consultant d'RFI. Il répond à Christophe Jousset.
Je pense que Gianni a parfaitement raison. Ce sont des images inacceptables. Ce sont des comportements inacceptables. Comme les instances ne sont capables de sanctionner que les acteurs, c'est-à-dire les joueurs et les encadreurs, les administrations des fédérations, eh bien la fédération sénégalaise paiera pour ses supporters. Mais ce sera pas tort. Parce que c'est le comportement des acteurs, et ça on nous le dit tout le temps, le comportement des joueurs ne doit pas oublier de tenir compte du public qui vous suit. Donc si vous êtes fair play sur le terrain, le public se trouverait ridicule d'être plus royaliste que le roi. Alors que hier, ce qu'on a vu, c'est que malheureusement sur le terrain, on n'a pas donné le bon exemple et le public a fait pire.
Et la Fédération royale marocaine a saisi la CAF et la FIFA.
Les Sénégalais attendent le retour de l'équipe nationale au pays. On écoute la réaction des supporters avec Léa Lisa Vesteroff pour RFI.
Même si c'était à l'intérieur du Sénégal, on allait les accueillir. Ça c'est clair, parce qu'ils ont fait un exploit. Vraiment, on les félicite. Et ils ont fait un gros job, un grand job. C'est une fierté, notre équipe.
On est là depuis 13 heures pour attendre nos lions. Et on va les accueillir avec fierté parce qu'on est fiers d'eux. C'est vraiment mémorable. C'est inoubliable. On vit le moment pleinement.
C'est de la joie. Vraiment, hier nuit, on n'a pas dormi. On a passé la nuit à veiller. Vraiment, tout le matin, on s'est réveillé encore. Parce qu'on est content. Vraiment, tout ça, ça nous rend fiers. Les mamans sont là, vous les voyez. Nos papas, nos pères, nos frères, tout le monde est content. Vraiment, ça c'est bon pour un pays. La victoire c'est très important parce que ça apporte de la joie. Dieu nous a donné notre 2 étoiles, 3 finales sur 4. Donc là, on est content.
Brahim Diaz, le Marocain, était déçu. Il a raté le penalty. Brahim Diaz, le Marocain, était déçu de la défaite du Maroc. Kylian Mbappé, son coéquipier au Real Madrid, lui a contacté et lui a envoyé des messages pour le soutenir mentalement. On écoute Kylian Mbappé.
Je lui ai envoyé un message, je ne l'ai pas eu encore, je pense qu'il doit être triste. J'ai passé la moitié de la nuit au téléphone avec Achraf, donc je sais très bien tout ce qui s'est passé. C'est difficile, je comprends tout à fait comment il doit se sentir maintenant, j'ai connu ça. Bien sûr, il va avoir de la déception, il va avoir de la colère. Le peuple marocain qui attendait ça depuis des années et qui était si près d'avoir ce titre-là. Mais c'est la vie d'un footballeur, je pense qu'on va devoir l'aider, nous, quand il va revenir ici à Madrid. Parce que voilà, avant même de penser au sportif, avant même de penser au football, je pense qu'il faut penser à la personne. Je pense que là, il doit être dans un état pas possible et notre objectif, ça va être déjà de le récupérer en tant que personne. Donc ça va être très important pour lui d'avoir ce soutien-là et on sera là pour lui.
En passant en Europe, il y avait des matchs aussi en France. Quelques résultats de dimanche. En Ligue 1, Lyon a battu Brest 2-1. Le Paris FC s'est imposé contre Nantes 2-1. Lens reste leader du classement général devant le Paris Saint-Germain par un seul petit point. L'OM est troisième. En Angleterre, Arsenal est leader avec 7 points d'avance sur Manchester City qui a été battu d'ailleurs par Manchester United 2-0. En Espagne, la défaite surprise du FC Barcelone 2-1 par le Real Sociedad. En Italie, l'Inter Milan reste leader après sa victoire 1-0 contre Udinese. En Allemagne, le Bayern de Munich leader après sa victoire 5-1 contre Leipzig. Le Dakar a pris fin dimanche. Côté moto, Luciano Benavides a gagné son premier titre par seulement 2 secondes devant Ricky Brabec, l'Américain. L'Australien Daniel Sanders a terminé 4e au classement général après une chute jeudi lors de la 10e étape. Côté auto, le Qatarien Nasser Al-Attiyah a gagné l'édition 2026. Le Français Sébastien Loeb a pris la 4e place au général. Pour le journal des sports, vous écoutez Radio SBS en français et on continue l'émission dans quelques instants. Restez avec nous.
Et c'était Sly qui nous a interprété sa chanson Flamme, une chanson tirée de son album Florilège. On retrouve à présent Jean-Noël Ducasse pour une page d'actualité en Australie. En fait, un appel à l'unité suite à l'attentat antisémite de Bondi Beach l'an dernier. En fait, un peu plus d'un mois, c'était au mois de décembre dernier. À tout de suite.
Appel à l'unité au Parlement en mémoire des victimes de la fusillade de Bondi Beach. Reportage de SBS News. Les travaux parlementaires ont repris hier, 2 semaines plus tôt, afin de rendre hommage officiellement aux 15 civils innocents abattus à Bondi Beach le mois dernier. Tout en s'engageant à tirer les leçons du passé, les dirigeants du pays se sont également tournés vers un avenir où la haine et la division fondée sur la religion ou le multiculturalisme n'auront plus leur place. Une minute de silence a été observée, suivie de la lecture par le Premier ministre des noms de ceux que l'Australie ne doit jamais oublier.
Matilda, Edith Brutman, Dan Al-Khayyam, Boris and Sophia Gurman, Alexander Kleitman, Rabbi Yaakov Levitan, Peter Maher, Reuven Morrison, Marika Pugani, Rabbi Eli Schlanger, Adam Smythe, Boris Tettelroyd, Tanya Tretiak, Tibor Whiteson.
Le premier soir de Hanouka, des centaines de juifs australiens s'étaient rassemblés sur la plage de Bondi pour célébrer une fête de lumière, de résilience et d'espoir lorsqu'ils ont été pris pour cible. 15 vies innocentes ont été fauchées lors de cette attaque. Au Parlement, les familles des victimes étaient assises dans la tribune du public tandis que les dirigeants du pays exprimaient leur douleur. Le Premier ministre Anthony Albanese a décrit le silence qui règne désormais dans les foyers et le vide immense qui ne sera jamais comblé.
As we pause in silence to remember them, we recognize that for you, an unbearable silence has fallen. The silence of laughter forever stilled. Of footsteps in the hallway that will never come. Of a voice that will never be heard again, except in memories held in broken hearts. The silence of futures unlived. The silence of a sorrow beyond words, inflicted by an atrocity beyond comprehension.
La chef de l'opposition fédérale, Susan Lee, a également pris la parole, rendant hommage aux victimes et affirmant qu'aucun discours ne saurait pleinement exprimer la douleur et le chagrin de la communauté. Elle a décrit ses rencontres avec les familles dans les jours qui ont suivi et la profonde tristesse encore vive. Elle a déclaré que ceux qui s'étaient opposés à la guerre à Gaza et avaient manifesté contre elle avaient contribué à l'antisémitisme qui, selon elle, a finalement conduit à l'attaque de la plage de Bondi.
Antisemitic hate fueled the terrorists on December the 14th, but it came out of the shadows in October 2023.
Madame Lee a aussi fait cette déclaration.
For too long, many in our society, especially in positions of authority, have failed to act decisively. It should not have taken the murder of 15 people for us to open our eyes to the dangers of antisemitism in Australia.
Alors que la nation continue de pleurer les victimes de l'attentat de Bondi Beach, un autre thème est désormais inscrit à l'ordre du jour national, et ce de façon récurrente au Parlement, l'unité. Non pas l'unité facile, ni l'unité sentimentale, mais celle qui exige du courage. Le courage de protéger les Australiens juifs de l'antisémitisme avec clarté, fermeté et sans délai. Et le courage de refuser la propension à la division qui suit la terreur, de laisser la peur se muer en suspicion et de transformer ses voisins en ennemis. Voilà ce que réclament les dirigeants australiens. Ce reportage de Essam Al-Halib de SBS News a été présenté par Jean-Noël Ducasse pour SBS French.
Et c'était Romeo Elvis et Motel et Grimes qui nous interprétaient leur chanson Nappe, une chanson qui évoque les défis rencontrés à Bruxelles. Place à présent à la programmation culturelle de l'Alliance française de Canberra en cette rentrée 2026.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, on a le plaisir d'avoir Lou Bénard, qui est la responsable marketing à l'Alliance française de Canberra. Bonjour et bienvenue à vous, Lou, et bonne année.
Merci beaucoup de me recevoir. Et oui, effectivement, bonne année 2026 à vous également.
Et on va peut-être commencer par la rentrée culturelle chez vous, à l'Alliance française de Canberra. Parlez des rendez-vous réguliers qui vont revenir en 2026 plutôt. Je pense au book club, les rendez-vous de conversation, le ciné club et tout ça.
Oui. Alors effectivement, donc on a notre book club qui revient régulièrement. Pour l'instant, il est un peu en pause puisque effectivement là en ce moment à l'Alliance française, on est un peu dans un entre-deux puisque notre book club en fait revient toutes les semaines à partir de la reprise du terme, et le terme 1, il reprend le 2 février. Donc pour l'instant, on est un petit peu en pause, mais en ce moment, nos actualités, ça va être justement tout ce qui concerne les summer camps, que ce soit pour les adultes ou les enfants, puisque justement, avant que le terme 1, reprenne le 2 février, on accueille à l'Alliance française des enfants pendant 3 semaines, ainsi que des cours intensifs pendant le matin et le soir pour les adultes. Donc ça, ce sont nos actualités du moment. Et effectivement, pour vous le disiez, le ciné classe, alors c'est un format en fait avec une de nos professeurs, Stéphanie, où on visionne un film pendant une première séance. Là, le 21 janvier prochain, on fait un hommage à la nouvelle vague avec la projection du film Jules et Jim. Donc le 21 janvier prochain, qui est un mercredi, à partir de 6h, de 6h à 20h, enfin de 18h à 20h, on visionne le film et ensuite la séance d'après, donc le 28 janvier, il y a justement une séance de discussion et d'atelier à propos du film qui a été visionné la semaine précédente avec donc notre professeur Stéphanie qui revient également sur la nouvelle vague, faire une présentation de ce mouvement cinématographique qui a été important pour la France. Donc voilà pour le ciné-classe. Et sinon, effectivement, à l'Alliance française en ce moment, donc ça a commencé du 12 ou à partir de lundi dernier, donc le 12 janvier, mais du 12 au 30 janvier, on a donc le summer intensif pour les adultes avec des cours le matin et le soir, que ce soit pour des beginners, des intermédiaires ou des avancés. Et on a également le camp donc pour les enfants avec plein d'activités. C'est à partir de 5 ans, c'est aussi pour les adolescents, donc avec tout ce qui est casque VR, imprimante 3D, on a des excursions, une piscine aussi, donc plein de choses sympas aussi pour divertir les enfants et leur faire apprendre le français en même temps, avant donc la reprise du terme le 2 février prochain.
Et vous avez des nouveautés en ce qui concerne les cours pour 2026 ?
On n'a pas de nouveautés, non. On reprend exactement les mêmes choses, donc c'est-à-dire des cours privés, mais également des cours de groupe, que ce soit pour les enfants, pour les adultes. Ouais. Et puis, on s'adapte à tous les niveaux, que vous veniez de commencer le français ou plus avec un niveau intermédiaire, jusque donc aux avancées pour avec plus de la conversation. Et si jamais vous interrogez sur votre niveau de français, vous aimeriez soit apprendre le français ou reprendre le français que vous ne savez pas exactement dans quelle catégorie justement vous vous situez, vous pouvez soit venir directement à l'Alliance française ou nous appeler, comme ça on vous fera passer un petit test de français pour pouvoir du coup vous mettre dans le cours le plus approprié à vos besoins.
Donc je reviens sur les événements culturels et peut-être un petit mot sur la 37e édition de l'Alliance française French Film Festival. J'imagine que vous êtes en pleine préparation déjà.
Tout à fait, c'est vraiment un de nos événements majeurs, le Sunshine Festival, donc qui est effectivement à sa 37e édition déjà. C'est un événement qui se produit au niveau national, dans différentes villes capitales, que ce soit à Sydney, à Melbourne et également à Canberra. Alors effectivement, on est en pleine préparation. On a déjà mis en tout cas sur notre site internet des infos, donc notre site internet qui est alliancefrancaisedecanberra.com.au si vous voulez voir justement, être au courant de toutes nos actualités. Et on a mis justement la page dédiée pour le Sunshine Festival avec les informations pour le moment sur lesquelles on peut communiquer puisque la programmation n'a pas encore été rendue publique. Mais en tout cas, au niveau des dates, c'est donc à partir du 5 mars prochain à Canberra. Ce sera donc l'ouverture du festival et ça va durer à peu près un mois puisque la closing, donc l'événement de clôture, sera le 8 avril avec des séances encore, quelques séances jusqu'au 12 avril. Mais globalement, ça va être un mois vraiment de célébration du cinéma français avec une très belle programmation à venir que pour l'instant on ne peut pas dévoiler. Mais en tout cas, voilà, restez connectés, que ce soit sur notre site internet ou même sur le site dédié de l'Alliance française Sunshine Festival qui gère justement cet événement au niveau national. Vraiment, ça va être comme chaque année un événement majeur pour la culture française en Australie, puisque quand même, on le rappelle, c'est le festival de film français le plus important en dehors de la France. Donc c'est vraiment un événement à ne pas rater en Australie.
Oui, en dehors de Cannes, n'est-ce pas ?
Exactement. Ah oui, bah bien sûr quand même. Mais oui, c'est le festival en tout cas de film français à l'étranger et le plus important en dehors de la France. Donc c'est vrai qu'en Australie, on a vraiment de la chance pour ça.
Oui, absolument. On bat les Japonais, on bat les Chinois, on bat tout le monde.
Exactement. C'est notre petite fierté nationale. Ouais. Mais oui, et puis vraiment une super belle programmation encore une fois à venir. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, on ne peut pas en dire plus, mais on est en plein dans les préparatifs.
Autre événement que vous aimeriez aborder, Lou, je pense peut-être à des expositions que vous organisez à l'Alliance française de Canberra de temps à autre. Vous invitez toujours des artistes à venir présenter les œuvres, leurs œuvres.
Exactement. Alors justement là, on est en train aussi de discuter avec certains artistes, vu qu'en plus c'est le début de l'année,
ouais,
pour essayer justement de continuer ces expositions qu'on organise de temps à autre à l'Alliance française. Tout à fait. L'année précédente, par exemple, on a accueilli John Firth, qui est un artiste ici local à Canberra. C'était la troisième fois qu'il exposait chez nous. Donc c'est quelque chose qu'on continue à faire. Et en plus, on est sollicité justement de temps en temps par des artistes qui aimeraient justement profiter de nos locaux pour pouvoir promouvoir leurs œuvres. Donc on est en discussion avec plusieurs personnes. Pour l'instant, on n'a pas de nom encore établi, mais c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait reprendre aussi pour 2026 pour promouvoir justement différents types d'artistes, que ce soit de la peinture ou même autre,
ouais,
pour promouvoir tout à fait leur art. Mais pas, pour l'instant, pas d'événements confirmés pour tout ce qui est exposition. Pas encore.
Et donc, toutes les informations sur la rentrée 2026, les cours, la culture, l'Alliance française French Film Festival sur le site de l'Alliance française de Canberra.
Tout à fait, c'est ça.
afcanberra.com.au, si je ne me trompe pas.
Exactement, c'est ça.
Merci à vous, Lou, et à très bientôt sur SBS en français.
Merci beaucoup à vous et bonne journée à Melbourne, c'est ça ?
Ah oui, à Melbourne, merci.
Parfait.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Vous êtes toujours à l'écoute du programme en français sur SBS Audio. À présent, on part à la rencontre de Mike Hone, un Sud-Africain qui est considéré comme l'un des plus grands explorateurs de notre époque, connu pour ses nombreuses aventures dans des environnements les plus extrêmes, dont une double participation au Paris-Dakar en tant que copilote. Christophe Mallet l'a rencontré il y a quelques jours en marge du dernier Dakar.
My Mike Horn, c'est premièrement un honneur de vous rencontrer parce que pour moi, vous êtes l'aventurier ultime. Vos aventures, on les a suivies beaucoup, pas mal médiatisées, mais beaucoup, beaucoup suivies. Aujourd'hui, vous êtes sur le Dakar. Je serais tenté de dire pourquoi.
Non, mais pour moi, le Dakar, c'était toujours une aventure. Ça me faisait rêver quand j'étais un petit peu plus jeune. Et puis, je me suis toujours dit qu'un jour, quand il y a une opportunité de participer, je veux sauter sur cette opportunité. Et puis, en 2020 et 2021, j'ai eu l'honneur d'être copilote de Cyril Dupré, qui a gagné 7 fois le Dakar en moto. Et puis, j'ai vécu une aventure, mais extraordinaire, une aventure humaine, une aventure, mais très... mais émotionnel et puis c'est justement là où en fait moi en étant un aventurier professionnel je trouvais cet esprit d'équipe, la solidarité, les gens qui sont là un pour l'autre même si on est en compétition très touchant et c'est pour ça en fait j'ai décidé de revenir, de voir un peu comment ça a évolué en très peu de temps.
Alors vous avez un beau projet InnoCell, on va en parler dans quelques instants, mais tout d'abord c'est cette aventure. Vous dites que vous êtes revenu après avoir participé au Dakar, ça vous donne envie de revenir au Dakar, cette fois-ci encore dans une voiture ou sur une autre aventure?
Oui, là aujourd'hui j'ai pris une décision de revenir. Tu vois les voitures qui arrivent, tu vois les équipes qui sont excitées, tu vois les gens qui sont déçus, tu vois les émotions qui nous fait vibrer en fait. Et puis c'est ça, la vie doit avoir des émotions. Et puis les plus d'émotions que tu as, les plus vivant tu as ce sentiment d'être vraiment vivant. Et puis, ça me manque un peu, tu vois, l'aventure de grimper encore les montagnes, de traverser encore les pôles, de traverser la jungle, et puis ou l'Atlantique ou la Pacifique. Ouais, on peut toujours trouver l'aventure, mais il y a très peu d'aventures aussi intenses, concentrées dans un seul bivouac qu'on trouve au Dakar, ici.
Et tous les ans?
Chaque année, au rendez-vous, et puis tu vois les jeunes qui arrivent, tu vois les vieux qui sont toujours là, et puis les gens qui partagent en fait leur esprit de, c'est un peu de l'exploration. En fait, quand tu pars dans l'inconnu, tu sais pas ce qui peut t'arriver pendant la journée. Et cet inconnu, ça me fascine.
Qu'est-ce qui a fait de vous un aventurier? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, Mike Horn, c'est synonyme d'aventure comme nom?
Ouais, il faut juste avoir des couilles, hein, cette envie de partir, du courage, l'engagement. Pourquoi te limiter par tes pensées? Pourquoi pas construire un pensée positive qui te permet d'y aller au-delà de tes capacités et tes potentiels. C'est ça qu'il faut pour un aventurier. Il faut oser sortir de ta zone de confort en disant que je n'ai pas besoin de tout savoir, je vais apprendre le long de la route et puis si j'ai 5 à 10% des réponses à mes questions, là il faut partir et puis les restes on va retrouver le long du chemin. Et puis c'est ça, chacun de nous dans notre vie, on est un peu un aventurier. C'est sûr que des fois c'est dans la musique, des fois c'est dans un sport, des fois c'est dans les sciences, mais on doit oser de se dépasser et puis c'est là où en fait notre vie devient mais beaucoup plus intéressant. Et puis quand la vie est intéressante, c'est là où on voit la beauté que notre planète nous offre tous les jours.
Alors, est-ce que c'était cette réflexion qui vous a fait réfléchir à InnoCell? Parlez-nous un petit peu de ce projet et la liaison avec le Dakar, parce que ça fournit beaucoup d'électricité et de power, comme on dirait en anglais, au Dakar d'une façon propre.
Oui, là, on est. Il y a la lumière autour de nous, il y a les écrans, et puis l'énergie est fournie ici par InnoCell. C'est l'hydrogène avec zéro d'émission de carbone. Une idée qui était née en 2021 ici au Dakar. Et puis quand je me fais critiquer parce que je suis un explorateur qui veut un peu protéger la nature, qui essaye de prendre soin de comment vivre plus un peu durable dans le futur, quand j'ai participé au Dakar, je me fais critiquer en fait par les gens parce que j'étais hypocrite. Je dis que notre planète est en train de réchauffer, mais en fait, je sors dans une voiture, je brûle du gasoil et je détruis. Et c'était là où je disais, mais la prochaine fois, quand j'arrive au Dakar, je veux contribuer à la conservation de notre planète. Et c'est là où l'idée de l'hydrogène et de générer l'énergie à travers d'un pile à combustible était né. C'est ici. Et puis, 4 ans plus tard, on arrive de fournir l'énergie à une partie des bivouacs qui nous permettent de vivre à 100% sans une émission de carbone. Et pour moi, ça, c'est la progression. Ça, c'est les Dakar. C'est un terrain de jeu qui nous permet de rêver d'abord, après de réaliser les rêves et d'avoir une action qui va changer la future de notre planète. On ne peut pas toujours dire qu'on pollue et puis ça ne va pas. Il y a des gens qui vivent des émotions fortes. Et quand on vit des émotions fortes, tout devient possible.
Et c'est un projet que vous faites en famille, je crois.
C'est sûr que...
J'ai bien révisé.
Oui. Si Jessica, ça fait 3 semaines qu'elle est là avec nos ingénieurs qui regardent que
Jessica,
ça marche.
Jessica, c'est votre fille. Hein.
Jessie, c'est ma fille. Je l'ai poussée un peu dans ses projets d'Innocell. Et puis, en même temps, pour moi, c'est un projet qui va donner presque une deuxième vie au Dakar. Parce qu'après, une fois qu'on ne pollue plus, ça reste une super aventure pour les gens. Et puis, c'est justement ça que les Dakar nous permettent de faire. D'avoir une idée qui devient la réalité et sur un terrain de test qui est vraiment un terrain de test extrême. Une fois que tu peux avoir un générateur, un hydrogène ici, tu peux le mettre partout au monde.
Et ça, dans 10 ans, dans 5 ans, c'est l'objectif pour le Dakar, d'avoir peut-être 100% de l'énergie produite par ce système-là, où il faut forcément modérer et ce sera un certain pourcentage d'hydrogène, un certain pourcentage, je sais pas, de soleil, solaire, etc.
Ce qui est important, c'est de savoir que notre, y a pas une seule solution à notre problème énergétique. L'hydrogène a vraiment sa rôle à jouer, c'est une brique. Et puis on peut le combiner avec les panneaux solaires, par exemple. Mais aujourd'hui, c'est sûr que si on décide de remplacer toutes les génératrices, les générateurs qu'on a en fait sur cette site aujourd'hui, avec les génératrices en hydrogène, on peut le faire l'année prochaine. Mais pour cette phase-là, il faut voir un stand-by, peut-être 2 ou 3 générateurs, un diesel, si jamais il y a un problème. Ça veut dire que c'est fiable.
C'était une chanson de Abou Tal, chanson intitulée Merci et tirée de son album Monsieur Sodat, sorti il y a à peine 2 mois, donc fin 2025. Place à présent au rappel des principaux titres de l'actualité de ce mardi 20 janvier. En France, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé hier le recours au 49.3 pour faire passer le budget 2026. des troupes danoises arrive au Groenland au moment où Donald Trump réaffirme son intention de s'emparer du territoire. Et les Australiens sauront aujourd'hui si leur Parlement fédéral est favorable ou non à un renforcement des lois sur les discours haineux et à un contrôle plus strict des armes à feu. Voilà, notre émission touche à sa fin. Prochain rendez-vous avec le programme en français sur SBS Audio, c'est ce jeudi à la même heure. Merci beaucoup de nous avoir suivis cet après-midi. Bel après-midi et à très bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.